France Inter.
Hola Fabienne Sintès.
Ah mais c'était hier, donc bonsoir Marie, bonsoir Marine, à demain. Les filles, nous on y va, le 18-20 de France Inter est ouvert, ravi de passer ces deux heures avec vous. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, Horizon 2035.
Pour fermer les centrales électriques à charbon, voilà ce qu'annoncent aujourd'hui les pays du G7, accord important concernant l'énergie fossile la plus émettrice de carbone, mais c'est loin d'être une mince affaire. Certains pays sont encore très dépendants au charbon et il y aura des exceptions. Explication dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
Échange tendu à l'Assemblée nationale entre le ministre de la Justice et la France Insoumise après l'audition par la police de Mathilde Panot, notamment pour apologie du terrorisme. Les heures supplémentaires des profs menacées par les économies à faire sur le budget de l'État. L'inflation ralentit, la consommation rebondit. L'INSEE confirme l'éclaircie au-dessus de l'économie française.
Et l'économiste Philippe Moati sera l'invité de ce journal.
Et puis, les fleuristes dans les starting blocks à la veille du 1er mai et donc du brin de muguet.
Le sommaire du 18-20 ce soir passe d'abord par la Chine et son prince rouge Xi Jinping qui sera à Paris la semaine prochaine, qui est surtout au cœur d'un long podcast qui est en ligne à partir d'aujourd'hui pour comprendre la machine, la pensée du président chinois. Nous serons avec Dominique André qui signe ce podcast. Ce soir, nous sommes aussi dans un Kurdistan irakien qui craint pour de bon une offensive turque avant l'été. Kevin, vous nous direz pourquoi la société australienne manifeste en très grand nombre et franchement il était temps. Dans le monde à 18h50, Franck Madvon est en Géorgie, manifestation et contre-manifestation, et Caroline Gillet dans Caroline au pays des 27 vous présente un fonctionnaire aux relations extérieures qui a une autre ville, manifeste aussi tous les jeudis pour la paix à Gaza. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, nous avons avec nous deux des auteurs du rapport sur les écrans et les enfants rendu aujourd'hui à Emmanuel Macron, ils répondront à toutes vos questions.
France Inter.
C'est la source d'énergie la plus polluante.
Et c'est donc celle dont certains États essayent de se débarrasser au plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique. Le charbon, qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre émises par l'utilisation d'énergie fossile. Alors ce soir, les ministres de l'environnement du G7, les 7 pays les plus riches du monde, se donnent un objectif: fermer les centrales électriques qui fonctionnent au charbon progressivement au plus tard en 2035. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Kevin.
C'est un pas de plus dans la lignée de la dernière COP.
Oui, c'est la suite logique de la COP climat de Dubaï. Les États s'étaient engagés à emprunter le chemin de la sortie des énergies fossiles avec une formule un peu alambiquée. Là, les pays du G7 qui représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre posent une date, 2035. Emmanuel Macron aurait préféré 2030, il l'avait tenté, mais il n'a pas réussi à convaincre le Japon. Un tiers de son électricité en dépend. Ce sera donc dans la première moitié de la décennie 2030.
Sauf que ce n'est pas si simple, hein, Célia, puisqu'il y aura des exceptions.
Oui, ce n'est pas un détail. Parmi les pays du G7, certains sont très producteurs de charbon. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, ils pourront continuer s'ils disposent de captage de carbone, des systèmes pour récupérer le CO2 à la sortie des centrales. Ensuite, il est séquestré, ça évite qu'il réchauffe le climat. Et dans ce cas, les centrales à charbon ne fermeront pas, ce qui irrite les ONG comme Gaïa Fèvre du réseau Action Climat.
C'est toujours cette idée d'utiliser la technologie de capture et de stockage de carbone qui vient justifier la possibilité de polluer. Sauf que ces technologies, elles sont très coûteuses et elles sont peu efficaces. Donc, il faudra être très attentif dans la mise en œuvre. Donc, ça dilue encore une fois l'engagement du G7. Il y a encore des failles et il y a des inquiétudes.
Et pour cette ONG, le grand absent, c'est le gaz. Pas d'objectif de réduction au G7. Ensuite, il va falloir convaincre d'autres pays comme l'Inde. Le charbon, c'est 70% de son électricité. Et financer cette sortie, ce sera l'un des objectifs de la prochaine COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan.
Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter. Et sur la question du plastique, cette fois, le G7 dit, je cite, « aspirer à réduire la production mondiale pour mettre fin à la pollution, mais sans donner d'objectif clair pour l'instant. » Alors que les négociations pour un traité mondial sur le plastique n'ont toujours pas abouti. Aujourd'hui à Ottawa, les États ont reporté le débat sur la production.
La contestation s'étend dans les universités françaises.
Après Sciences Po et la Sorbonne à Paris, plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu aujourd'hui à Rennes, à Lyon, encore à Dijon. À chaque fois, les forces de l'ordre mobilisées pour lever les éventuels blocages. On fera le point dans le journal de 19h. Une mobilisation appuyée et soutenue côté politique par la France Insoumise. Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, concerné aujourd'hui, toujours en lien avec la situation au Proche-Orient, par la convocation de deux de ses membres devant la police pour apologie du terrorisme. Il s'agit de Rima Hassan, avocate franco-palestinienne, candidate aux élections européennes, et de la députée Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, où le sujet a été abordé cet après-midi lors des questions au gouvernement. Et Laurence Perron, ça a donné lieu à de nouveaux échanges tendus.
La question du coordinateur en chef de la France insoumise était attendue, Manuel Bompard.
Votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulaire du garde des Sceaux qui dévoie l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. Quand allez-vous cesser de défigurer la France ?
La réponse du garde des Sceaux un peu moins.
La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire. Vos amis à vous, ce sont les mollas. Vous devriez avoir honte.
Et la majorité lui emboîte le pas. La députée Renaissance, Violette Spielboot, se fait confirmer par la ministre de l'Enseignement supérieur qu'il y aura bien des sanctions pour les étudiants qui ont occupé Sciences Po, soutenus par LFI. Sylvie Retailleau.
Certains irresponsables soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit, utilisent malheureusement nos étudiants et je dirais même en appelant au soulèvement. Cela suffit.
Laurence Perron à l'Assemblée nationale pour France Inter et la ministre de l'Enseignement supérieur annonce une réunion un jeudi avec les présidents d'université pour prendre des mesures contre ces blocages. Le Proche-Orient, Stéphane Séjourné, s'y trouve. Ce soir, le ministre français des Affaires étrangères s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui promet une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, je cite, avec ou sans accord de trêve. Israël a dit attendre jusqu'à demain soir une réponse du Hamas sur cet accord.
Voilà maintenant un scientifique empêché d'entrer dans son laboratoire.
Et il manifeste depuis ce week-end. Ça se passe en Chine. Il s'appelle Zhang Yongzhen. Il est virologue et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est lui le premier à avoir séquencé le virus du Covid-19 en janvier 2020. Il n'a désormais plus accès à ses recherches à Shanghai. Nouvel exemple de la pression exercée par les autorités chinoises sur tout ce qui concerne le Covid. France Inter à Pékin, Sébastien Berriot.
Zhang Yongzhen vient de publier les photos sur le réseau social Weibo. On peut y voir le virologue assis sur un carton devant son laboratoire où il a passé une première nuit. Le scientifique veut obtenir le droit de revenir sur son lieu de travail. Ce week-end, l'accès lui a été interdit par des gardes, officiellement pour des raisons de sécurité, mais ce n'est pas la première fois que l'homme est empêché de travailler. Depuis 2020, plusieurs mesures ont déjà été prises pour tenter de paralyser ses recherches. Les autorités n'ont pas apprécié le geste du virologue qui ose en janvier 2020 rendre public un premier séquençage du Covid sans l'accord du gouvernement. 4 ans plus tard, ce nouvel incident montre que le régime communiste cherche toujours à contrôler l'information sur les origines du virus et une éventuelle responsabilité de la Chine dans son apparition. Le virologue, lui, ne baisse pas les bras. « Je n'abandonnerai pas, je veux la vérité et la science », écrit-il sur Weibo, avant de lancer ce sitting de protestation particulièrement osé en Chine. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
La suite, Kevin, pardon, les Français encore plus, un peu plus dépensiers en ce début d'année.
Si l'on en croit en tout cas les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre de 2024, la consommation est en hausse de 0,4%, ce qui pousse un peu la croissance du PIB, la richesse nationale, plus 0,2. Le gouvernement y voit une manifestation, je cite, de la solidité de notre économie.
Bonsoir Philippe Moati.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Cité. Vous êtes cofondateur de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, de la solidité de notre économie. On comprend bien la conclusion qu'en tire le gouvernement. Philippe Moati, est-ce que l'expert que vous êtes, lui, dit oui, il y a au moins un réveil de la consommation ?
Écoutez, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Ouais. En même temps, on ne va pas gâcher son plaisir. Les indicateurs sont un peu meilleurs. Alors, c'est trop tôt pour savoir si c'est l'amorce de quelque chose de durable ou non. Ça va être d'un mois sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre. Il y a pas mal de fluctuations, en fait. Donc, il faut regarder un peu les tendances. Or, si on regarde les tendances, on a l'impression, il y a des petits signes très timides qui semble indiquer qu'on est en train de sortir du tunnel, quoi. Et évidemment, on a très envie de rapprocher ça du recul de l'inflation.
Alors voilà, parce que on dit en chiffres, est-ce qu'on dit qu'on est revenu, Philippe Moati, à des normes, j'ai mis des guillemets pour les gens qui nous écoutent, à des normes d'inflation qui sont au fond des normes d'inflation désormais classiques, en fait. Est-ce qu'on est revenu au moins à ça ?
On n'est pas loin, puisque la norme, un peu arbitraire d'ailleurs, est à 2%. Le dernier indice est à 2,2. Donc c'est conforme à ce qu'on anticipait. On se disait qu'arrivé au second semestre, on arriverait à un niveau d'inflation jugé normal, raisonnable. Alors il faut espérer qu'il n'y ait pas de nouvelles tensions inflationnistes qui se réveillent, car on voit le cours des matières premières importées qui remonte. Donc soyons prudents, mais pour l'instant on est sur la bonne trajectoire, et c'est ça qui encourage modestement les consommateurs à être un peu plus généreux dans leurs dépenses.
Alors un peu plus généreux, effectivement on parle d'un volume de dépenses qui remonte, mais pour ce qui est de l'alimentaire, or quand l'alimentaire remonte, est-ce que c'est un vrai signe de retour de morale au fond, ou est-ce que c'est juste une réadaptation à une situation antérieure?
C'est plutôt ça, parce qu'on a quand même connu une période longue, quasiment sur 2 ans, de recul de la consommation alimentaire en volume, ce qui est quand même inédit à ma connaissance. Alors c'est vrai qu'on partait d'un point haut après la crise sanitaire. Et là, effectivement, depuis plusieurs mois, on assiste à une petite reprise, modeste, tout ça est très modeste, mais une petite reprise malgré tout, qui est une inversion de tendance en volume. Et c'est concomitant, non seulement recul de l'inflation alimentaire, mais même on commence à observer des baisses de prix. Elles sont assez localisées, quand on regarde globalement, c'est 0, quelque chose chaque mois. Mais quand même, pour la psychologie des consommateurs, constater que la hausse des prix est arrêtée, c'est un élément favorable.
Quels sont les critères, Philippe Moati, qui montreraient qu'on est passé en gros à l'étage supérieur, qu'on monte une marche, c'est-à-dire qu'il y a un vrai changement psychologique, qu'on arrive à un type de dépense morale en hausse? C'est quoi le critère? Parce qu'on voit que la restauration, l'hébergement frémissent un tout petit peu aussi. Ça veut dire loisir. À quel moment on se dit c'est bon, on est en train de monter sur la marche supérieure?
Mais il faudra déjà que la conjoncture du pouvoir d'achat s'améliore. Donc là, les chiffres dont on dispose sont plutôt bons. On a eu une croissance de 0,7% au premier trimestre, en grande partie parce que c'est la conséquence des augmentations, des ajustements qui se sont opérés à la fin de l'année. Donc c'est plutôt bon. Mais le bon indicateur, c'est les indicateurs psychologiques. Vous savez, on a des enquêtes qui sont en pratique, à l'Obsoco aussi, où on essaie de mesurer un peu le moral, entre guillemets, des ménages. Et là, honnêtement, pour l'instant, le frémissement est infime. Ça s'améliore un peu, mais on reste à des niveaux historiquement très très bas. Notamment, on sent que le temps, l'époque est plutôt encore à l'épargne que à la dépense inconsidérée, quoi. Et le taux d'épargne d'ailleurs est resté à un niveau très élevé. On flirte avec 18%, ce qui est relativement inédit.
Ce qu'on comprend bien en vous écoutant, Philippe Moati, c'est que les consommateurs sont d'une prudence de sioux, en gros, donc ils veulent bien effectivement ouvrir un peu plus leur porte-monnaie parce qu'ils peuvent le faire maintenant, tout en se disant à la première occasion je le referme. C'est ça que j'entends en vous écoutant.
Il y a un peu ça. Puis vous savez, là, on globalise, on parle des consommateurs, mais l'épisode inflationniste qu'on a vécu quand même a porté un coup assez dur au pouvoir d'achat des catégories populaires et des classes moyennes inférieures. Donc elles continuent d'être très prudentes dans leur comportement de consommation. Dans nos enquêtes, on a encore 13% des Français qui disent ne pas manger tous les jours à leur faim. Donc il y a encore des consommateurs qui sont sous pression, et d'autres qui avaient déjà accumulé beaucoup d'épargne pendant la crise Covid, qui en fait ont été relativement épargnés par la conjoncture inflationniste et qui ont retrouvé le goût de la consommation, notamment de consommation de loisirs, effectivement.
Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Merci beaucoup.
Et si l'économie française se porte un peu mieux, les finances publiques, elles, doivent toujours s'alléger de 20 milliards d'euros cette année. Dans l'éducation nationale, il faut trouver 700 millions. Et ce soir, on apprend que le ministère de l'Éducation demande à certains rectorats de trouver une partie de ces économies sur les heures supplémentaires des professeurs. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Des chefs d'établissement ont reçu un mail leur indiquant que ces heures ne seraient plus payé jusqu'à la fin de l'année.
Oui, et ce mail a été retransmis aux professeurs de plusieurs académies pour les informer qu'ils ne seraient plus rémunérés pour les heures qu'ils effectuent en plus de leurs heures de cours habituelles, ce qui signifie que tous les projets, les dispositifs particuliers mis en place dans les établissements vont s'arrêter avant la fin de l'année scolaire. Exemple avec Guillaume Ozou, professeur d'EPS en éducation prioritaire au collège Guy Moquet de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Il était jusque-là payé en heures supplémentaires pour une formation en secourisme qu'il dispense aux élèves.
On fait passer tous nos élèves de 4e, on a 8 classes de 4e, il y en a une qui ne pourrait plus faire. On a aussi des projets, par exemple, pour amener les élèves à la piscine. On avait un projet aussi intéressant, puisqu'on est quand même, on aurait plus de soutien aux élèves en difficulté, avec du tutorat, avec des professeurs de maths, de français, etc., qui reprenaient ces élèves en petits groupes. Tout ça va être terminé, puisque c'était payé en heures sup. C'est en plein milieu de l'année, on nous retire les heures. C'était jamais arrivé, cette manière de faire est incroyable. Enfin, vraiment, c'est la catastrophe en ce qui nous concerne.
Ce sont les élèves qui seront pénalisés, en particulier ceux qui passent des examens. Car les séances de révision, d'entraînement à l'oral pour le bac ou le brevet sont payées en heures supplémentaires. Le ministère explique qu'il a chargé les recteurs de demander des efforts là où ce serait le moins difficile. Mais pour l'instant, la consigne est la même pour tous les établissements, ce qui suscite beaucoup de colère et d'inquiétude.
Sonia Princey, spécialiste éducation de France Inter. Direction maintenant la cour d'assises de Paris, où l'on suit le procès de cet homme accusé d'avoir recruté des mercenaires originaires de Géorgie pour se venger de son kiné qu'il tenait pour responsable de ses douleurs chroniques. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes au Palais de Justice historique de Paris où cet après-midi avait lieu le dernier interrogatoire du principal accusé, très embarrassé par les questions de la cour.
Oui, ce n'est jamais très simple de convaincre qu'on n'était pas au courant d'un règlement de compte quand 4 années d'instruction semblent démontrer le contraire et que tous vos co-accusés vous désignent clairement. Alors, Sylvain Ferron se bat avec les mots. Il construit des réponses tellement contextualisées qu'à la fin, la présidente est obligée de reposer la question à laquelle il n'a finalement pas répondu. La cour s'agace un peu vite de ce petit jeu. Mais non, là, sur l'accusé, c'est sa compagne qui a tout imaginé, tout mis en place. Mais alors, les écoutes téléphoniques dans lesquelles il dit « Il ne faut pas le lâcher, ce bâtard, je vais faire les choses et m'exfiltrer. » C'est du pur délire, répond Ferron. « J'étais sous morphine. » Il assure que ce qui est arrivé au kinésithérapeute est purement dramatique. « Si j'avais eu l'ombre d'un soupçon, j'aurais tout fait pour que ça ne se produise pas. » Et à la fin, Ferron s'excuse très sincèrement. Mais « Vous vous excusez de quoi ?» demande malicieusement l'avocat général. « Bah, je m'excuse parce que c'est le minimum qu'on puisse faire, » répond Ferron. « Moi, je ne m'excuse que de ce dont je me sens responsable, » conclut le représentant de l'accusation.
Un compte-rendu d'audience signé Jean-Philippe Degnaud. Plus de personnes placées de plus en plus longtemps. Voilà le principal enseignement du rapport annuel de la CIMADE. Les chiffres de 2023 publiés aujourd'hui. L'association d'aide aux migrants parle ici des CRA, les centres de rétention administrative. Où sont retenues les personnes sur le point d'être expulsées. 28 jours passés dans ces centres en moyenne l'an dernier, une semaine de plus qu'en 2022. Pourtant, d'après Paul Chiron, chargé des actions juridiques à la CIMADE, les expulsions dites abusives ou illégales se multiplient.
Toutes les associations ont pu voir qu'il y a une augmentation des expulsions illégales, c'est-à-dire des expulsions dans lesquelles l'administration va décider d'expulser alors qu'elle n'avait pas le droit. Ça peut se rencontrer dans des procédures devant les tribunaux, mais aussi alors que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, avait interdit l'expulsion. Ça a été le cas 2 fois en 2023. Par exemple, en décembre, une personne haïtienne a été expulsée vers un pays qu'on sait en guerre. Que ce soit la Cour nationale européenne d'asile, que ce soit le Haut Commissariat pour les réfugiés, tous et toutes dénoncent la situation dans ce pays. Et l'administration a décidé de violer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et d'expulser à tout prix. On peut être inquiet sur l'état de droit parce qu'il y a une remise en cause réelle de la place et de l'autorité du juge.
Paul Chiron de la CIMADE au micro de Faustine Calmel. Le renseignement français s'attend à un 1er mai plus apaisé que l'an dernier où les manifestations tombaient en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Mais les autorités s'attendent toujours à la présence de quelques centaines de Black Blocs, notamment dans les grandes villes. À l'occasion de cette journée internationale des travailleurs et travailleuses, le 1er mai qui rime aussi avec Muguet, alors les fleuristes se tiennent prêts, comme ici à Amiens, Pierre-Antoine Lefort.
Au fond du magasin, Lison, en CAP fleuriste, enchaîne les petits bouquets.
C'est beaucoup de petites choses à la chaîne, en fait. Tout ce qui est brin de muguet à l'unité, ou deux brins, une rose, ou toutes les petites compos, tout ça, c'est ce qui se vend le plus souvent. Il faut le faire rapidement. Voilà, c'est la fête du travail, pas pour les fleuristes.
Ici, on se prépare depuis 3 jours pour être fin prêt.
On a toutes les compos aussi terre à faire, en fait. Le muguet en pot, le muguet en griffe.
Émilie Garbi-Chafik est la fleuriste de l'atelier fleuri.
Alors, le 1er mai, quand on est fleuriste, ça représente vraiment une fête très importante encore aujourd'hui pour tous les Français, qui représente vraiment une grosse journée sur l'année.
Bien sûr, il faut réussir à se distinguer par rapport aux autres professionnels et aux stands de rue qui fleurissent un peu partout. Et la tendance, c'est au soliflore, ces vases très fins pour de très petites compositions.
Ça marche très très bien le soliflore, donc on a des petits pots de toutes les couleurs assez modes, des transparents, puis des couleurs pop comme cette année, où on insère généralement 3 brins de muguet avec normalement 13 clochettes pour le bonheur. bonheur. Et on met des petites fleurs comme des petites roses branchues qui sont des polyanthas, des frésias, du wax, enfin vraiment des choses qui sentent bon.
L'atelier fleuri s'attend à tripler son chiffre d'affaires par rapport à une journée normale.
Pierre-Antoine Lefort, France Bleu, Picardie, enfin en foot, c'est leur dernière occasion de sauver leur saison. Les joueurs du Bayern Munich, dépossédés du titre de champion d'Allemagne pour la première fois depuis 12 ans, ils jouent ce soir leur demi-finale aller de la Ligue des Champions face à l'infatigable Real Madrid. Coup d'envoi à 21h à Munich.
Kevin Dufraîche, merci. Vous reviendrez tout à l'heure en passant sous les radars, car vous êtes très souple.
Absolument.
Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, bonsoir. Un temps encore perturbé ce soir.
Oui, bonsoir à tous. En effet, on a des pluies sur la Bretagne, sur une grande partie est également, des orages possibles sur le nord-est et au nord de la Seine. Demain, ce sera pluvieux sur la moitié sud et sur la moitié ouest, avec des pluies parfois marquées vers la Provence, le Massif central, le centre-val de Loire et la Normandie. Des orages possibles l'après-midi, mais ça s'éclaircira quand même près de l'océan. Sur les Alpes frontalières, beaucoup de neige à haute altitude, mais plus bas, sur les Pyrénées, vers 1000 à 1500 mètres.
Et des orages forts attendus sur le nord-est l'après-midi.
Oui, sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec des pluies soutenues, de la grêle. Ils progresseront vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes pour la soirée et la nuit. Il fera plus frais demain sur l'ouest et le sud, 10 à 18 degrés, et puis 20 à 26 encore entre le nord de la Seine et le nord-est.
Allez, Élodie Calac de Météo France qui revient tout à l'heure après le journal de 19h.